C'est un peu gros sabot, mais pourquoi pas.
Mais il y a aussi des Français parmi les inventeurs de canulars.
Alors, Alphonse Allais était l'un des plus raffinés, Marion. Il avait pris pour tête de Turc un économiste nommé Paul Leroy-Beaulieu. Et dans de nombreux textes, Allais crédite Leroy-Beaulieu de citations imaginaires. Je m'explique. Il estimait que Leroy-Beaulieu ne débitait que des banalités. Dès lors, il lui prête des phrases historiques qui sont autant de platitudes. Ça sera ma conclusion. Ce qu'il y a d'agréable dans les voyages, c'est qu'ils permettent de contempler successivement des paysages divers. Et surtout, les petits ruisseaux, à la fin de l'année, font les grandes rivières.
C'est tellement vrai. Ce monde me rend fou. À demain, Christophe.
À demain. Et
il est 9h, dans un instant, le journal.
France Inter, partenaire de la Quinzaine des cinéastes. Jusqu'au 25 mai, la Quinzaine des cinéastes revient au Festival de Cannes pour sa 56e édition. La Quinzaine, c'est une sélection libre et audacieuse de 30 films ouverte au public pour fêter le cinéma dans toute sa diversité. Des films que vous pourrez également découvrir lors de la Quinzaine en salle du 5 au 16 juin dans les cinémas près de chez vous. La Quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes jusqu'au 25 mai. Un événement France Inter.
Vous êtes bien sur France Inter, il est 9h01.
Le journal. Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. 5 jours après le début des violences en Nouvelle-Calédonie, le bilan vient de s'alourdir. Un 6e décès survenu il y a quelques heures à Kalagomen, dans la province nord de l'archipel. En Ukraine, les forces russes continuent d'avancer sur Kharkiv, la deuxième ville du pays. Et puis cet appel à la grève lancé par les pharmaciens pendant le week-end. Ils réclament des revalorisations financières.
À suivre dans On n'arrête pas l'écho, à 100 jours des Jeux Paralympiques, on parle insertion professionnelle des personnes en situation de handicap avec l'association d'insertion AGFIP et la fondatrice de l'application de mobilité Vibia. C'est à partir de 9h10.
France Inter.
Après un espoir d'accalmie en Nouvelle-Calédonie, de nouveaux échanges de tirs ont fait 1 mort et 2 blessés à Kalagomen. La victime est un père de famille. Il aurait tenté de passer un barrage avec son fils. Le récit de Julien Mazzoni de Nouvelle-Calédonie, la première.
Selon la gendarmerie, les faits se sont produits à 15h dans le nord de la Grande Terre, l'île principale de l'archipel, sur la commune de Kalagomen. Après avoir essuyé un premier refus sur un barrage tenu par des militants indépendantistes, un homme est revenu un peu plus tard avec son fils. Deuxième refus, le ton monte, des tirs sont échangés. Le père de famille est décédé et 2 hommes sont blessés. Ils ont été transférés à l'hôpital de Kone, dans le nord. Un drame dont les circonstances restent encore à préciser. Le procureur devrait communiquer dans les heures à venir. Après le décès de 2 gendarmes et de 3 civils en début de semaine, le bilan vient donc s'alourdir ce samedi en Nouvelle-Calédonie et fait peser le risque de voir les violences s'étendre à une partie du pays, jusque-là épargnée.
Julien Mazzoni de Nouvelle-Calédonie, la première. Par ailleurs, cette annonce hier soir du Premier ministre Gabriel Attal en marge de la réunion consacrée aux conditions d'un retour à la paix civile, la flamme olympique ne passera pas par la Nouvelle-Calédonie le 11 juin comme prévu. Le Premier ministre recevait à Matignon Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher et plusieurs parlementaires de tous bords politiques pour évoquer les conditions d'un retour à la paix civile et tous sont d'accord ou presque. Il faut reporter le vote de la réforme du code électoral. La Nouvelle-Calédonie, où 3200 personnes sont actuellement bloquées en raison de l'absence de vols commerciaux au départ et vers l'archipel. La reprise du trafic est à ce stade programmée mardi, mais cette date reste incertaine car elle est soumise à l'évolution des conditions de sécurité.
Dans l'actualité aussi, Laurence, le nouvel assaut russe, l'aide occidentale, le manque d'hommes, la trêve olympique. Volodymyr Zelensky donne une longue interview à l'AFP, l'agence France-Presse.
Le président ukrainien estime que l'assaut lancé par la Russie contre la région de Kharkiv pourrait n'être que la première vague d'une offensive plus large. Selon lui, Moscou veut attaquer la ville de Kharkiv. Hier, le président russe Vladimir Poutine a justifié cette nouvelle offensive en affirmant répliquer aux frappes ukrainiennes de ces derniers mois en territoire russe et vouloir créer une zone tampon. Les Russes continuent de progresser dans la région du nord-est de Kharkiv, deuxième ville du pays. Virginie Pironon et Jérémy Tuil se sont rendus à 20 km au nord-est de la ville. Dans la commune de Tsirkouni, les habitants se préparent à l'arrivée des Russes. Reportage.
Tsirkouni, 2000 habitants. La localité est composée de 9 villages, dont certains à moitié détruits. Avec sa femme, Sacha vient chercher un peu d'aide alimentaire. Les Russes sont à moins de 20 km.
La situation est incertaine. Bien sûr que c'est stressant.
Debout un peu à l'écart, Valentina, 70 ans, et sa fille, Natalia, s'apprêtent à quitter bientôt le village. On ne dort pas, on tremble. C'est effrayant de se dire qu'il pourrait y avoir à nouveau une occupation. On a déjà été occupés. Ça fait peur. Sa mère, Valentina, vient de Loukhantsi, à 4 km de la frontière.
Ils sont déjà là-bas. Ils sont dans notre village. Et on a peur qu'ils arrivent ici maintenant. Vu la cadence de l'offensive, ça ne fait guère de doute. Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi ils nous bombardent? Je n'ai plus de force. J'ai perdu la moitié de mes cheveux.
Impassible, le maire de la localité, Nicolas Sikalenko, ne laisse rien paraître de son inquiétude.
En tenant compte des informations qui me viennent de la ligne de front, je suis persuadé que les Russes n'arriveront pas jusqu'ici.
Hier, le gouverneur de la région de Kharkiv indiquait que l'armée ukrainienne n'était pas parvenue jusqu'à présent à arrêter les forces ennemies.
Virginie Pironon et Jérémy Tuile à Tsirkouni. Et dans cette interview à l'AFP, Volodymyr Zelensky avertit que l'Ukraine n'a qu'un quart des systèmes de défense antiaérienne dont elle a besoin. Il critique aussi l'interdiction occidentale de frapper en Russie. Et quant à la trêve olympique voulue par la France, il rejette cette idée qui ferait, selon lui, le jeu de l'ennemi. Après le drame de Rouen, où un Algérien a été tué après avoir incendié la synagogue et foncé sur un policier avec un couteau de cuisine, Gérald Darmanin s'est rendu auprès de la communauté juive de la capitale normande. Le ministre de l'Intérieur a appelé les préfets de chaque département à redoubler de vigilance sur la protection des institutions religieuses ou encore des écoles privées confessionnelles. Un rappel donc des mesures décidées après l'attaque du Hamas en Israël. Emmanuel Leclerc.
Ce qui s'est passé hier matin avec ce cocktail Molotov lancé dans la synagogue située dans l'hypercentre de Rouen vient illustrer la multiplication des actes antisémites de ces derniers mois, plus 300% lors du premier trimestre de l'année par rapport à 2023. Et pour Jonathan Arfi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, il y a un vrai risque de voir se répéter des attaques au cocktail Molotov dans les jours à venir.
Vous savez, l'antisémitisme, c'est marqué par un phénomène terrible, tragique, qui est un phénomène de mimétisme et de répétition. Nous savons que malheureusement, les images d'un Rouen peuvent donner des idées à d'autres. Il y a un continuum qui va de tags, d'agressions verbales, d'actes qui peuvent paraître anodins, mais qui finissent par se traduire derrière par des actes plus graves, dont notamment évidemment un incendie comme celui-là, qui aurait pu tuer s'il y avait eu des gens à l'intérieur, ne l'oublions pas.
On devrait donc avoir des agents, police ou gendarmerie, dans leurs véhicules ou postés en faction devant les entrées des synagogues lors de chaque office. Ce sera le cas aussi pour les écoles juives la semaine prochaine, avec des patrouilles en dynamique dans les quartiers concernés le reste du temps, y compris avec des soldats de l'opération Sentinelle.
Emmanuel Leclerc.
9h08, Laurence, encore une profession en difficulté dans le monde de la santé.
Et cette fois, il s'agit des pharmaciens. Ils appellent à faire grève ce week-end avant de fermer toutes les officines le 30 mai prochain. Ils réclament notamment des revalorisations financières de leurs actes et alertent sur les pénuries de médicaments qui deviennent ingérables pour eux. Très en colère, la profession entend mettre la pression sur le gouvernement avant le 30 mai. Victor Delande.
Entre la hausse des charges depuis 3 ans et le manque de revalorisation des actes des pharmaciens, les officines ferment les unes après les autres. Plus de 300 rien que l'année dernière, le plus souvent en zone rurale. Et le mouvement s'accélère en ce début d'année, assure Pierre-Olivier Vario, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
On était à 36 fermetures au mois de janvier, donc plus qu'une par jour. J'ai des mails de confrères me disant « Écoutez, monsieur Vario, pour moi c'est foutu. Je suis au bord du tribunal de commerce, donc la pharmacie va fermer, elle va être liquidée, mais s'il vous plaît, continuez de vous battre pour les autres. »
Les syndicats ont donc déposé un préavis de grève pour le 30 mai. Il est encore temps de négocier avec le gouvernement, tempère Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats de pharmaciens d'officine.
Mon objectif, c'est pas de faire griller des merguez Port de Montreuil. Hein. Mon objectif, c'est que les pharmaciens puissent faire leur travail correctement, et donc c'est d'aboutir à quelque chose avec le gouvernement. Donc on a encore un peu de temps pour avoir des engagements et pour avoir des choses concrètes pour que la profession puisse se remettre au travail.
Les pharmaciens veulent également interpeller les pouvoirs publics sur les pénuries de médicaments extrêmement chronophages pour eux.
Victor Dolande, ce soir, 20e édition de la Nuit Européenne des Musées, un rendez-vous très attendu pour découvrir et revoir les œuvres des musées avec des animations souvent très originales pour faire vivre les collections. 2 millions de visiteurs, 3000 musées en France et en Europe vont ouvrir leurs portes jusque tard dans la nuit. On n'aura que l'embarras du choix pour visiter autrement les musées tout proches de nous. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour à tous.
Alors donnez-nous quelques idées, Isabelle, pour cette nouvelle Nuit des Musées.
Alors, cap à l'ouest, au merveilleux musée de Pont-Aven, ce soir, création de bande dessinée en direct et concert de chant breton féministe avec le groupe Kaolila. À Amiens, marathon de lecture à la Maison Jules Verne et au Louvre Lens, découverte des secrets des réserves. À Paris, une performance dans le jardin Renoir du musée de Montmartre, le mythique cabaret de Madame Arthur va faire revivre en plein air son répertoire. Madeleine flamboyante, fascinante créature de Madame Arthur, va mettre le feu aux planches.
C'est vrai qu'on est dans un quartier historiquement très très fort, que ce soit pour son passé par rapport au travail du sexe, que ce soit pour sa dimension politique. Et aujourd'hui, c'est vrai que Madame Arthur, on garde cette dimension politique LGBT sur la représentation des personnes transgenres, des personnes travesties dans le domaine du cabaret. On va chanter du Dalida, on va chanter du Régine, on va chanter des morceaux américains qu'on aura retraduits. Mais derrière, on y apporte ce que nous, en tant que créature, on a y apporté. Et faire un peu honneur à l'art sous toutes ses formes. Et finalement, faire partie des œuvres et du patrimoine qu'on peut offrir à Paris et à Montmartre ce soir-là.
Ce soir à 20h et 21h, Madame Arthur au musée de Montmartre.
La gravité me plaque contre le sol.
Merci Isabelle Pasquier, puis ajoutons qu'à Paris aussi, hein, au musée de la Porte de Ré, vous pourrez découvrir une chorégraphie de match de foot signée Pierre Rigal.
C'était le journal de Laurence Thomas, il est 9h11 sur France Inter.
La météo avec le baume Hydradéfense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Magali Rochereau, le ciel est toujours bien nuageux et instable ce matin. Oui Marion, avec une vigilance rouge crue en Moselle sur la rivière de l'Agnier et orange sur le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Cette perturbation qui amène en ce moment quelques averses sur le tiers nord du pays donne vraiment de la pluie et des orages sur les deux tiers sud, en particulier sur l'Occitanie, l'Auvergne et la vallée du Rhône. C'est parfait pour profiter de la nuit des musées ce soir.
Cet après-midi, les températures sont en très légère hausse.
Oui, même si l'ambiance reste de saison et n'évolue pas beaucoup, le mercure atteint 17 à 22 degrés, localement 22 à 24 sur le sud-est, 21 à Tarascon et jusqu'à 25 à Ajaccio. Le ciel de cet après-midi est gris au nord de la Seine et jusqu'au Hauts-de-France. Allons voir comme c'est beau les ciels pluvieux de la Bretagne à l'Alsace et dans le sud du pays. Ce régime d'averse est quand même moins actif. Côté Méditerranée, le soleil est même généreux.
La météo de Magali Rochereau, on n'arrête pas l'écho à suivre.
Ce samedi, Raphaël se confie dans la balade.
Ne partons pas fâchés.
17h, Vincent Josse.
Le chanteur de Caravane sort un 10e disque, peut-être le plus intime de tous, Une autre vie.
La balade.
Tous les samedis sur France Inter, à 17h.
Mathieu et toute sa bande, c'est pour la vie. En tout cas, ça fait un beau temps qu'il se le dit. Longtemps qu'il peut compter sur eux et pas mal de temps qu'il partage le même amour des choses bien faites. Et depuis tout ce temps, il se trouve si bien loti avec tous ses appareils électroménagers chéris. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Découvrez la sélection Choix durable d'Arty. Des produits plus fiables, plus réparables et moins énergivores. Alors, on en reparle dans, disons, longtemps. D'Arty, c'est parti pour durer. Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com.
France Inter, partenaire de Hit Me Hard and Soft, le nouvel album de Billie Eilish. Un voyage de 10 titres avec des ballades dont seul Billie Eilish a le secret, des titres tempo plus expérimentaux, parfois électro. Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, un album France Inter.
On n'arrête pas l'écho avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
France Inter, 9h13, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Ali Badou, Marion Lourd, on vous retrouve demain matin.
Avec
demain.
Plaisir.
À demain.
Quand on se retrouve avec un corps qui est modifié, une vie qui est bousculée, être de nouveau des acteurs du monde économique, c'est aussi une façon de faire partie de la société. Au moment des Jeux de Tokyo, il y a un grand mouvement qui est né qui disait, nous, les 15% de personnes qui participons au grand mouvement des Jeux Paralympiques, eh bien, c'est 15% de parts de marché.
«
C'est le tennisman Stéphane Houdet, l'athlète paralympique. Les personnes en situation de handicap, une part de marché, dit-il, qu'il faut considérer. Les entreprises doivent leur proposer des produits, des services et des innovations, ne pas se limiter à la compassion. Lundi, nous serons à 100 jours des Jeux paralympiques. Nous consacrons donc une large part du magazine à cette question du handicap et de l'économie. Nous parlerons de l'insertion professionnelle, de la prise de conscience ou pas assez des entreprises. Nous parlerons du numérique et peut-être même de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des leviers puissants vers l'emploi ? Zoom sur des start-up de la Handitech. Vous entendrez le reportage de Marion Botterel. Et puis deux invités en plateau. La patronne de Vibia, Raja El Harak. C'est une application qui propose des solutions de transport créées par cette jeune femme, lauréate de la French Tech et elle-même en fauteuil. Et puis un acteur incontournable de l'accès à l'emploi, c'est la GFIP. Son directeur général, Didier Essartier, sera aussi avec nous vers 9h40. Et on terminera, bien sûr, avec Madame Vieux-Boulot. Après l'accès à l'emploi, après le travail, il y a la retraite et des bonnes nouvelles. Pour les personnes handicapées, Sandrine Foulon nous fera le point juste avant 10h. Voilà, vous avez le programme, c'est parti.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe du Mag Éco est heureuse de vous retrouver ce samedi. Valentin Pérez qui prépare l'émission à mes côtés, les réalisatrices Maria Pasquet et Céline Illa, Vincent Desillères signe les mixages et Jérôme Ragano a en main la console pour que notre son arrive jusqu'à votre récepteur. Pour démarrer, c'est comme ça tous les samedis. On va d'abord commencer par décrypter l'actu. Et aujourd'hui, c'est avec l'économiste Michaël Zemmour. C'est la première fois que vous venez. Nous sommes très heureux de vous accueillir.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 et vous faites partie du laboratoire sur l'évaluation.
L'évaluation interdisciplinaire des politiques publiques.
Le LIEP, c'est à Sciences Po. Pour débattre avec vous, il est journaliste au quotidien L'Opinion. Sa passion, c'est le budget, objet économique et politique. Marc Vigneault, hello Marc.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Bon, on n'a pas fini de débattre de la menace des grèves pendant les JO et même avant les JO. À la SNCF, par exemple, quelle prime pour les cheminots qui seront mobilisés ? On a une réunion annoncée conclusive mercredi. La veille, un coup de semonce avec une grosse mobilisation, donc mardi, des conducteurs de RER et des trains de banlieue. Faut-il se préparer à une épreuve sociale ? Est-ce qu'on assiste à un chantage aux Jeux Olympiques ou pas ? On écoute la bande de son de ces dernières semaine.
Pas de ramassage des poubelles à Paris. Aujourd'hui, les éboueurs sont en grève.
Les préavis de grève poussent comme les bourgeons de printemps. À l'approche des JO, la gréviculture est-elle de retour ?
La réforme des retraites en 2023.
Benjamin Hamard, porte-parole de la CGT Val-de-Marne.
J'ai lu dans à peu près tous les journaux, le gouvernement table sur la problématique du pouvoir d'achat. Le fait que les Français n'ont pas les moyens de se mettre en grève trop longtemps, bah, c'est les mêmes armes. Dans l'économie capitaliste, enfonçons les portes ouvertes, on profite du terrain.
Sur les Jeux Olympiques, je ne vois pas forcément de risque.
Patrice Vergriet, ministre des Transports.
Je pense que le dialogue social fait son œuvre. J'ai toujours prôné le dialogue social. Là, on arrive à quelque chose qui est équilibré, justement, du gagnant-gagnant. Je suis certain que les agents de tous les transports montreront une très belle image de la France.
J'ai l'impression que les déclarations ou les mesures gouvernementales représentent beaucoup d'efforts pour dégrader encore un peu plus la situation sociale dans le pays.
Bernard Thibault, co-président du comité de suivi de la charte sociale de Paris 2024.
J'en prends pour preuve l'annonce par le Premier ministre de choisir le 1er juillet pour présenter de nouvelles dispositions plus restrictives sur l'indemnisation du chômage à 20 jours des Jeux Olympiques. Je remarque aussi l'annonce faite par le ministre de la fonction publique qui attend beaucoup de la mobilisation des fonctionnaires pour les Jeux Olympiques tout en leur promettant une réforme de leur rémunération au mérite, voire la perspective d'être licenciés si on estime qu'ils ne travaillent pas convenablement.
Les premiers à avoir décroché la timbale des JO, ce sont les policiers et les gendarmes travaillant en Ile-de-France. 1900 euros de primes dès le mois de janvier pour calmer la colère qui montait.
Tous les syndicats de la SNCF ont signé le plan de la direction et pour cause, ce plan est des plus avantageux.
C'est une capitulation.
Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat.
Le chantage à la grève a payé, voilà. La gréviculture a gagné. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce dont on souffre. Et là, la SNCF achète la paix sociale sur le dos du contribuable.
La paix sociale, elle ne s'achète pas.
Thomas Porte, député La France Insoumise.
Les galères des salariés et des habitants de ce pays, elles ne s'arrêteront pas avec les Jeux Olympiques. Elles continueront pendant et après. Si les salariés décident demain de se mettre en grève parce qu'ils ont d'autres revendications, ils se mettront en grève.
Marc Vigneault, je me tourne vers vous ce matin. On a décidé de faire la photo de ces préavis de grève et de où nous en sommes, hein, parce que ça, on a eu l'impression que ça pleuvait. Maintenant, est-ce que c'est pas un petit peu apaisé ?
Alors, il y a encore une grève, comme vous l'avez noté, qui arrive la semaine prochaine. Donc à la SNCF, il faut encore se mettre d'accord sur la prime que les agents franciliens vont toucher pour opérer les transports. Mais c'est vrai que grosso modo, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés et acceptés par les syndicats jusqu'à présent. Il y a eu évidemment les aiguilleurs du ciel hein, qui ont obtenu un très très bel accord au point que la consigne a été passée en interne de ne pas trop communiquer sur le contenu de l'accord pour ne pas choquer les Français tellement il était favorable.
Ça, c'est une info à vous ?
Ça, c'est une info à moi, oui. Mm-hmm. Les éboueurs, donc l'accord a été signé très récemment avec la mairie de Paris. On peut détailler, si vous voulez, ce qui a été obtenu. Donc, eux, ils avaient déposé des préavis de grève sur plusieurs journées en mai et puis du 1er juillet au 8 septembre. Il y a une gratification spéciale pour les Jeux Olympiques. Il y a eu des professions qu'on n'attend pas forcément. Hein. Il y a eu des choses dans les hôpitaux. Il y a les pharmaciens qui sont tentés éventuellement, qui sont en négociation avec l'assurance maladie, qui sont tentés aussi d'utiliser les JO comme d'un levier. On peut même intégrer éventuellement les médecins et les négociations sur la convention avec leurs honoraires, etc. Si ça se passe mal, on peut imaginer qu'eux aussi profitent des JO. Enfin, il y a tout un tas de professions. Vous avez cité les policiers, évidemment. On note en général, c'est beaucoup de professions dans le public. Si vous entendez parler d'une entreprise privée, en général, l'accord, il est beaucoup moins généreux. On leur propose de leur offrir une semaine de congé s'ils se mobilisent pendant les JO, etc. Il y a quelques primes chez Orange. Mais grosso modo, c'est dans les professions publiques ou parapubliques qu'il y a des fortes revendications et des accords assez généreux qui sont obtenus.
Michaël Zemmour, est-ce que vous voulez compléter la photo ?
Oui, bah, y a ce qu'on a entendu dans votre bobine tout à l'heure, c'est plusieurs éléments. D'abord, il y a un climat social tendu de manière générale, avec depuis la réforme des retraites, et on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a des conditions de travail qui vont être particulièrement difficiles ou modifiées du fait des JO. Alors, il suffit d'habiter en Île-de-France pour recevoir le message en permanence, il va falloir vous adapter. Et puis, il y a des professions dont le travail va être fortement impacté. Marc disait, et c'est vrai que c'est pas mal dans les services publics que ça se mobilise, mais les contraintes liées à la continuité du service pendant les JO, elles vont être aussi très concentrées dans les transports, dans le ramassage des ordures par exemple. Donc ça c'est le deuxième élément, il y a un changement des conditions de travail et donc il y a des revendications qui sont liées à ça. Et puis la troisième chose, c'est qu'effectivement les Jeux Olympiques, ça apparaît, ça a été dit, comme une fenêtre d'opportunité pour les mobilisations syndicales. Et ça, c'est assez intéressant parce que les chercheurs en sciences sociales se posent beaucoup de questions sur le rôle des syndicats, de la grève, de la négociation. Est-ce que ça marche encore ? Il y a un peu moins de syndiqués qu'il y a quelques années. Les entreprises ont des stratégies pour contourner les mobilisations, notamment au niveau des multinationales. Et il y a un chercheur, Philippe Askenazy, qui, dans un livre qui s'appelle « Tous rentiers », dit « Mais en fait, il est possible de rentrer par la fenêtre ». Et il y a des mobilisations qui gagnent en tapant là où c'est critique.
Et il donne deux exemples. Et les JO, c'est critique.
Les Jeux Olympiques, c'est critique, effectivement. La menace, on voit que le préavis de grève est un outil de négociation. Il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à la grève. La menace est un levier de négociation, surtout quand les revendications précédentes n'avaient pas donné lieu à des accords au mois de septembre ou au mois de novembre.
Tout à fait, mais bien sûr, c'est normal qu'il y ait des primes pendant les Jeux Olympiques pour les professions mobilisées. La question, c'est est-ce qu'on n'en profite pas pour obtenir des choses qui coûtent démesurément cher et qui vont coûter aux contribuables ? Là, il faut rentrer dans le détail des accords. On peut noter quand même que c'est toujours les mêmes professions qui obtiennent des choses et je ne suis pas sûr que ça percole sur les autres salariés, ceux qui auraient intérêt à avoir plus de primes. On voit, par exemple, dans la restauration collective qui va être beaucoup mobilisée, il n'y a pas d'accords très généreux qui ont été signés. Donc, ce n'est pas parce que la SNCF obtient quelque chose qui, d'ailleurs, parfois, n'a pas grand-chose à voir avec les JO, par exemple, sur l'accord sur les fins de carrière, on pourra y revenir, que les autres professions vont y gagner.
Michaël Zemmour, ouais.
Comment on explique ça ? En fait, ça s'explique assez simplement. C'est la capacité à se mobiliser, parce qu'on sait que les entreprises ont des salariés parfois moins syndiqués, elles ont recours à la sous-traitance, donc il y a une moindre capacité à se mobiliser dans certains secteurs que dans les entreprises publiques. Donc c'est principalement l'explication de ça. Et puis effectivement, les Jeux Olympiques, c'est une fenêtre d'opportunité, parce que les négociations n'ont pas eu lieu en amont.
Donc ça nous dit quelque chose de la qualité du dialogue social en France.
Alors,
c'est ça
les négociations ont commencé quand même pas mal en amont. Après, par exemple, sur les contrôleurs aériens, ça avait été une négociation pour augmenter la productivité des contrôleurs aériens, parce que ça pèse sur les compagnies aériennes. Il faut que la place de Paris, enfin que les aéroports de Paris soient compétitifs. Et il y avait quand même, c'était reconnu que le métier de contrôleur aérien, c'était très généreux. Et il se trouve que le gouvernement, effectivement, a traîné, a signé l'accord. Et du coup, ça a été exploité au dernier moment pour obtenir quelque chose d'extrêmement généreux. Mais au départ, c'était pour optimiser le service. Et d'ailleurs, il y a un aspect d'optimisation du service. Mais évidemment, les syndicats, ils ont intérêt à faire traîner la négociation jusqu'au pont de mai, jusqu'à ce que les Jeux Olympiques arrivent. Donc, c'est difficile de conclure une négociation très en avance quand les syndicats savent très bien qu'ils vont obtenir plus avant les JO.
Michael Zemmour.
Là où j'ai un point d'accord, c'est que cette situation, où finalement, il y a un tête-à-tête entre les syndicats et les entreprises, ça pose des questions pour des secteurs qui n'ont pas la capacité de se mobiliser ou qui n'ont pas la capacité de peser sur l'outil économique. Je voudrais prendre l'exemple de ce qui se passe dans l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis depuis plusieurs mois maintenant. Il y a une grève très importante sur un sujet légitime, c'est même pas des revendications salariales. Les enseignants et les associations de parents d'élèves, certaines, se mobilisent pour avoir des remplacements, donc des recrutements en fait, et puis rénover les écoles. Et c'est un peu une grève traditionnelle, c'est-à-dire que la mobilisation est plutôt forte, plutôt nombreuse. Les écoles sont fermées, donc il y a de la gêne aussi, mais il n'y a pas cette menace sur l'outil économique, et pour l'instant, ils n'obtiennent pas satisfaction de leurs revendications. Donc effectivement, si on n'a pas une régulation collective, que ça soit au niveau des conventions collectives, que ça soit au niveau de l'État, le tête-à-tête au niveau des entreprises va créer des disparités entre les endroits où on peut mieux se défendre et les endroits où il y a plus de mal à se faire entendre.
Bon, ça, c'est pour la méthode. J'ai l'impression, Marc, que là où vous avez une revendication, c'est sur la facture. C'est ça que j'entends dans ce que vous dites.
La facture, ça va clairement coûter assez cher. Et comme je disais, ça dépasse souvent le cadre de la mobilisation du personnel pour les Jeux Olympiques. On peut rentrer sur l'exemple de la SNCF. Hein, c'est assez intéressant. Et on peut noter aussi qu'en France, on a quand même 7. Si on élargit la focale avant de rentrer peut-être sur les cas particuliers, on a quand même cette culture plus ou moins de la grève, parfois préventive. Il y a même des grands syndicats réformistes qui parlaient de grève préventive quand ils ne s'exprimaient pas officiellement, par exemple sur des cas comme Total, etc. Alors que la direction montrait des volontés de négocier. Et en fait, on faisait semblant que c'était bloqué et on faisait grève avant que la négociation ait commencé.
Quand
on regarde en nombre de jours, c'est impressionnant en Europe.
Alors, est-ce qu'on est champion de grévie? Est-ce qu'on a une gréviculture? Est-ce qu'on est champion de la grève en France?
Alors, les statistiques sur les grèves dans les années récentes sont sortis. Les derniers chiffres qu'on a, c'est 2022, et on n'est pas à des niveaux exceptionnels. Il y a eu plus de grèves, par exemple, en 2010, au moment de la réforme des retraites. Après, les exemples qu'on a donnés ici, dans beaucoup de cas, en fait, c'est un préavis de grève, et la grève n'est même pas effective. Et si on parle un peu en termes de théorie des jeux, faire grève, ça veut dire que les salariés disent aux entreprises, vous nous avez sous-estimés, vous ne nous avez pas estimés à notre juste valeur, il va falloir nous réévaluer dans la négociation. On peut éviter la grève, si la négociation se fait pas sur un pied d'égalité, mais en jaugeant les rapports de force, si les syndicats ouvrent un conflit, ça veut dire qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été pris au sérieux par rapport à ce qu'ils peuvent peser du côté des salariés.
Mais vous voyez que la question qui se pose, et moi je ne peux pas la trancher, c'est une question politique, c'est une question de est-ce que dans certaines professions qui ont un pouvoir bloquant majeur, on fait un équilibre entre différents droits constitutionnels, le droit de grève et le reste. Et en tout cas, la droite pose la question. Elle a déposé une proposition de loi au Sénat qui évidemment est très explosive dans le contexte des Jeux Olympiques, donc le gouvernement ne l'a pas soutenue. Mais on voit qu'en Italie, par exemple, il y a des restrictions du droit de grève pour certains jours de départ en vacances dans les transports. Est-ce que ça serait constitutionnel? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est une bonne question à poser? Peut-être. Mais en tout cas, c'est une question qui se pose visiblement politiquement.
Alors, il y a déjà des restrictions d'un droit de grève. Les grèves n'ont pas le droit d'être politiques. Il y a des contraintes liées au service public. Et si j'ai bien compris, la proposition du Sénat, c'est une réduction tout simplement du droit de grève en disant pas pendant les vacances, vous avez le droit de faire grève quand ça ne gêne personne. Simplement sur la facture quand même, la facture liée aux Jeux Olympiques, en gros, on estime ça à 9 milliards, dont un tiers de dépassement de budget. L'accord à la SNCF, c'est 35 millions, dont 15 millions liés au départ en retraite. Donc la facture publique des Jeux Olympiques, c'est pas les préavis de grève pour l'instant, c'est plutôt le budget des JO. On verra si ça rapporte ou pas.
On s'arrête là. Marc Vigneault et Michael Zemmour, les débatteurs de ce samedi 18 mai. 9h30 sur France Inter, on n'arrête pas l'écho. À présent, émission spéciale à 100 jours des Jeux Paralympiques. C'est cette émission que nous vous proposons aujourd'hui. Est-ce que ça sera aussi, les Jeux Paralympiques, le moment où nous franchirons de nouvelles étapes dans la prise en compte du handicap? Dans 10 minutes, deux invités en plateau, le directeur général de l'AGFIP, Didier Sartier, et la start-upeuse Raja El Arak, la patronne de l'application Vibia. Ce sont des solutions de mobilité. On va parler création d'entreprise, inclusion professionnelle et puis aussi innovation. Mais d'abord, on part voir comment ça se passe ailleurs. C'est notre séquence L'écho en VO, un mot qui raconte le système, ce matin, le système américain.
A bill that would eliminate what's called the sub-minimum wage has passed a House committee vote at the General Assembly.
Nous sommes en Géorgie, au sud-ouest des États-Unis. Une loi qui pourrait faire disparaître le sub-minimum wage, le salaire sous-minimum, a été votée en commission lors de l'Assemblée générale. Et c'est un grand changement pour les personnes en situation de handicap. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes correspondante de France Inter aux États-Unis. Hélène, la Géorgie n'est pas le seul État américain qui a décidé d'en finir avec ce sub-minimum wage, ce salaire sous-minimum censé favoriser l'emploi des personnes handicapées.
Non, ce sera même le 17e État à supprimer ce droit qui autorise les entreprises à sous-payer leurs salariés parce qu'ils sont en situation de handicap. Une nouvelle victoire pour de nombreuses associations et avocats qui se battent depuis des décennies contre ce texte qu'ils jugent discriminatoire, car ce sub-minimum wage existe depuis plus de 85 ans. En 1938, en plein New Deal, le président américain Roosevelt met en place une loi qui impose un salaire minimum, sauf pour les malvoyants, les déficients intellectuels ou encore les vétérans mutilés. L'article 14C permet en effet aux entreprises de les payer seulement quelques dizaines de cents par heure. Un texte choquant aujourd'hui, mais qui à l'époque se veut inclusif. La mesure avait pour but d'inciter à embaucher des personnes bien souvent enfermées dans des institutions. Aujourd'hui, les Américains en situation de handicap sont beaucoup plus intégrés dans la société, notamment dans le monde du travail. Mais cet article n'a toujours pas été supprimé au niveau fédéral. C'était pourtant une promesse de campagne du président Biden. Et si leur nombre a chuté cette dernière décennie, il reste encore près de 45 000 travailleurs payés en dessous du minimum légal. La moitié de ces Américains gagnent en moyenne 3,50 $ de l'heure, bien insuffisant pour leur permettre de vivre de façon autonome. Les défenseurs du texte estiment pour leur part que supprimer le sub-minimum wage mettrait beaucoup de personnes en situation de handicap au chômage. Pour éviter cet écueil, la plupart des États qui l'ont abrogé ont mis en place des crédits d'impôt et des aides pour les entreprises. L'année dernière, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap était de 22,5%. C'est, Alexandra, le taux le plus élevé jamais enregistré aux États-Unis.
Hélène Chevalier avec nous de Washington. Quelques chiffres. En France, 12 millions de personnes concernées par le handicap dans l'Hexagone. Un peu moins de 3 millions d'entre elles sont en âge de travailler. Une loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés. C'est le texte. Il date de 1987. En pratique, la majorité des entreprises concernées n'y sont pas et donc elles sont mises à l'amende. Les personnes en situation de handicap étaient ces dernières années deux fois plus au chômage que la moyenne nationale, mais ça change et on va en reparler de l'accès au travail, de la création d'entreprises et des innovations. À ce sujet, un nouveau lieu, un accélérateur de solutions technologiques vient de sortir de terre. Il sera inauguré lors des Jeux Paralympiques. D'ailleurs, il se trouve tout près du Stade de France, en Seine-Saint-Denis. C'est un bâtiment vitré, 13 000 mètres carrés, où on trouvera des bureaux, un showroom, des espaces de formation, un centre médical dédié au handicap et surtout des start-up. La promesse de ce pôle d'innovation, c'est de mettre le numérique au service du handicap. Et nous, on ne va pas attendre l'inauguration officielle. Hein. Notre reporter Marion Botorel nous emmène ce matin dans ce Handilab. On va dire que c'est une petite avant-première. Marion a rendez-vous avec son ambassadeur. Le tennisman Stéphane Houdet est athlète paralympique en lice pour Paris 2024.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Stéphane Houdet et aujourd'hui on se retrouve au cœur même de ce rêve que j'ai eu, je pense, sur mon lit d'hôpital pour la première fois. Très concrètement, j'ai fait le tour du monde pour développer un fauteuil roulant qui pouvait mimer les gestes que je faisais quand j'étais debout, puisque je suis à la suite d'un accident de moto. Je suis amputé fémoral, je marche au quotidien, mais j'utilise un fauteuil pour mon sport. Je suis devenu joueur de tennis en fauteuil roulant. Donc j'ai gagné 3 fois la médaille d'or aux Jeux paralympiques pour l'épreuve du double. J'ai été numéro 1 mondial. Et je continue à jouer et à prendre beaucoup de plaisir à me retrouver sur le court avec plein d'innovations. Donc j'ai fait, je pense, le tour du monde pour trouver des solutions parce que plein de gens avaient développé dans leur garage ce genre de dispositif, mais de les réunir en un seul et même endroit, c'était mon rêve. Et c'est celui qui est en train de devenir réalité parce que aujourd'hui, non seulement on pourra identifier plein de besoins ici sur place, mais répondre à de nouveaux besoins qu'on n'a pas encore imaginés. En fait, ce qui est important pour nous, quand on se retrouve avec un corps qui est modifié, une vie qui est bousculée, c'est important d'avoir beaucoup de compassion autour de nous, mais être de nouveau des acteurs du monde économique, c'est aussi une façon de faire partie de la société. Et ce lieu se veut être le symbole de tout ça. Au moment des Jeux de Tokyo, il y a un grand mouvement qui est né, qui disait, nous, les 15% de personnes qui participeront au grand mouvement des Jeux paralympiques, eh bien, c'est 15% de part de marché.
Les espaces de bureaux avec vue sur la Seine sont en train d'être aménagés. Des start-up vont s'y installer d'ici quelques semaines, autour notamment d'un incubateur.
Là, on est en plein chantier, là.
En plein chantier. On est en train de déployer l'électricité, de poser les moquettes, distribuer le courant. On est plutôt bien dans les temps, il n'y a pas de retard.
Et malgré ces couloirs encore déserts, Gérald Azanco, cofondateur d'Andilab avec Stéphane Houdet et promoteur du projet, voit l'avenir en grand.
On s'est rendu compte en interrogeant plein de gens qu'il y avait plein de gens qui avaient soit des technologies qui pouvaient servir au monde du handicap mais qui ne savaient pas comment y aller, d'autres qui étaient un peu mal à l'aise avec l'idée de faire de l'argent en fait, avec le handicap et donc qui n'y allaient pas trop, et puis d'autres qui étaient vraiment dans ce marché mais qui sont un peu isolés. Donc en fait l'idée ça a été de se dire, il n'y a pas en Europe de plateforme dans laquelle tous ces gens sont réunis, on va en créer une. On va la créer en Seine-Saint-Denis au moment des Jeux Olympiques ou Paralympiques. Voilà comment c'est né.
Est-ce que du coup vous comptez sur ce lieu, Andilab, pour accélérer un peu tout cet écosystème, faire qu'il y ait même plus de start-up qui se lancent dans ce domaine?
Bien sûr. Nous, non seulement on pense que ça va créer des vocations, mais on pense aussi que ça va attirer des gens qui ont des applications qui pourraient servir au handicap, mais qui ne le font pas, parce que c'est très difficile dans ce pays de faire comprendre qu'on peut faire le bien et gagner de l'argent. Donc, en fait, nous, notre but, c'est à la fois que des grandes entreprises portent des projets qui vont servir aux porteurs de handicap et peut-être au plus grand nombre, et que des start-up de plus en plus nombreuses s'intéressent à ce sujet qui est scalable, si on utilise le langage des start-up, parce que c'est un gros marché. Si on met la perte d'autonomie, encore une fois, c'est un Français sur 5. Et en Europe, c'est la même chose. Il y a plus de 110 millions de porteurs de handicap en Europe. Donc c'est un gros, gros marché.
Sans attendre ce futur pôle d'innovation, des start-up s'intéressent déjà à ce secteur depuis plusieurs années. C'est par exemple le cas d'Andineo, une jeune pousse de la French Tech. Depuis 4 ans, Andineo aide les entreprises à définir leur politique d'insertion des personnes en situation de handicap.
Bonjour Robin.
Et j'ai rendez-vous avec son fondateur, Robin Siksik, avant l'un de ses rendez-vous clients à Paris, près de l'Arc de Triomphe.
Ce qu'on fait, c'est qu'on commence toujours tous les accompagnements par une évaluation des pratiques. Donc c'est une évaluation qui se fait sur notre outil en ligne. C'est aussi une innovation qu'on a développée, commercialisée et dont on a été récompensé aussi par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. L'idée, c'est de permettre à l'entreprise d'avoir une vue vraiment exhaustive de ce qu'elle peut mettre en place. Et ensuite, on va accompagner l'entreprise pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans sur un format de programme d'accélération pour lui permettre de mettre en place des actions qui vont vraiment faire changer les choses dans l'entreprise, que les personnes parlent plus du handicap. Souvent, la première image qui vient en tête quand on parle de handicap, c'est les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est une réalité. Il faut mettre en place des aménagements dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, il existe une diversité de handicaps. 80% des handicaps sont invisibles. Donc, on peut parler des handicaps psychologiques, des handicaps cognitifs, des handicaps mentaux, des handicaps liés à des maladies qui peuvent être invalidantes. Donc, il faut prendre en compte tout ça dans les aménagements, dans la façon d'aborder le handicap et dans les termes qu'on va utiliser aussi.
Robin, est-ce que vous trouvez qu'on assiste à un tournant ou on a un moment particulier ?
C'est vrai que quand on parle d'insertion, on parle beaucoup d'accompagner les candidats vers l'emploi, mais on parle peu d'accompagner les entreprises justement à être handi-accueillantes, à mettre en place des nouvelles pratiques et qu'à la fin ça bénéficie du coup aux salariés et donc à l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent plus faire sans pour attirer de nouveaux talents, fidéliser les collaborateurs. Il y a de plus en plus de critères aussi dans les appels d'offres qui concernent justement ces enjeux sociaux et environnementaux. Le handicap va prendre une part de plus en plus importante dans la responsabilité sociale des entreprises.
En dîner au conseil aujourd'hui, 15 entreprises et leurs 7000 salariés.
Bonjour, salut Robin, ça va ?
Robin Sixic se rend dans l'une de ces structures, Padoa, où Chloé Malgérard est responsable handicap.
Bon, alors déjà, comment ça s'est passé depuis la dernière fois ? Vous avez fait votre séminaire, non, il n'y a pas longtemps ?
Du coup, on est parti au mois d'avril et on a pu organiser toute l'activité avec Handisport. Certains se sont rendus compte qu'ils pouvaient finalement être eux-mêmes dans une situation handicap qui compense depuis des années. Ça peut être sur des difficultés pour entendre, des maladies chroniques aussi. On a plusieurs salariés qui sont concernés. On a principalement mis plus de télétravail en place pour des personnes avec voilà cette possibilité de voilà le matin de dire je suis pas en capacité de venir et là du coup c'est vraiment un rôle en tant que référente handicap de continuer cette sensibilisation et d'accompagner s'il y a des dossiers de demande de reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé à pouvoir mettre en place.
Depuis 1987, la loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés de compter au moins 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif, sous peine d'amende. Mais aujourd'hui, seule une sur trois remplit cette obligation. Alors les innovations portées par les start-up permettront-elles une meilleure inclusion ? Je pose la question à Fanny Jaffresse. Elle est sociologue et ingénieure de recherche à Rennes, au sein de l'École des hautes études en santé publique.
Ces solutions techniques, c'est une bonne nouvelle, hein. Il faut qu'elles se développent, mais il faut aussi avoir en tête qu'elles ne sont qu'une partie de la solution à la question de l'emploi des personnes handicapées. En fait, aujourd'hui en France, on se rend compte que pour avoir une place sur le marché du travail, il faut absolument être productif à 100%, même plus. Et pour toutes les personnes en fait, qui ne parviennent pas à répondre à cette exigence de productivité, l'intégration en emploi est fragile, voire impossible. Ces enjeux-là, ils se posent avec d'autant plus d'acuité que voilà, la récente réforme des retraites impose de rester en emploi plus longtemps. Et les travailleurs vieillissants rentrent souvent dans cette catégorie de travailleurs handicapés. En fait, il faut se poser la question de la soutenabilité du travail aujourd'hui pour permettre à tous d'avoir une place dans l'emploi.
L'innovation au service du handicap, que peut-on en attendre ? C'était le reportage de Marion Botorel.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
On va continuer cette discussion sur le handicap et une auditrice me fait remarquer sur Twitter que je n'ai pas dit tous les handicaps, mais bien sûr physique, sensoriel, psychique, mental et cognitif. On regarde le handicap au sens large avec nos deux invités. La fondatrice et CEO de l'application Vibia est avec nous. Bonjour Rajaël Arak.
Bonjour.
Vibia, dites-nous, c'est une plateforme qui propose des services de mobilité, c'est-à-dire ?
En fait, Vibia, c'est une plateforme qui permet en fait de rassembler différents types de transporteurs qui peuvent prendre en charge les personnes en situation de handicap. Donc, on travaille avec des VTC, des taxis, des transporteurs spécialisés. L'idée de départ, en fait, c'est de centraliser une offre qui est existante sur le marché pour pouvoir la rendre accessible auprès des personnes qui peuvent en avoir besoin.
Et les Jeux paralympiques et même les Jeux olympiques, pour vous, ça va être... Vous êtes en région parisienne. Est-ce que vous êtes sur toute la France ?
Non, on est de France pour l'instant. C'est lancé à peu près un an. Donc, pour l'instant, on est en Île-de-France. Et justement, après les Jeux olympiques, on aimerait bien partir dans notre ville. Qui sont aussi des problèmes d'activité.
Ça va être le grand moment un grand moment pour Vibia. Les jeux, il va y avoir plus de demandes.
Oui, forcément, on attend quand même 350 000 personnes en session de handicap, je crois dans plus de 5 000 en fauteuil roulant, je crois. Et je ne sais plus exactement les chiffres, mais du coup, bien sûr, c'est un grand moment pour nous et on a hâte.
Le directeur général de l'AGFIP est également avec nous, Didier Sartier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors l'AGFIP, c'est une association incontournable pour l'accès à l'emploi. Vous menez moult actions. expliquez-nous, dites-nous en plus sur les actions que vous menez. Il y a des aides, des services?
Absolument. La GFIP a été finalement créée par la loi de 87 qui a été évoquée tout à l'heure. Et notre objectif, c'est de développer l'emploi des personnes handicapées, de mettre une dynamique collective. Et on propose bien sûr des aides et services, on propose des solutions, des aides financières pour accompagner les personnes et les entreprises, des conseils en compensation, puisqu'il faut aussi finalement pouvoir dire, ben voilà, pour telle situation, on vous propose telle réponse, qui peut aussi être organisationnelle derrière. Et puis, comme ça a pu être évoqué juste avant, nous accompagnons aussi très fortement les entreprises à développer des politiques handicap, à faire en sorte qu'elles aient les solutions et qu'elles développent des solutions pour être justement en dit accueillante, mais aussi, par exemple, les organismes de formation. On sait à quel point la formation professionnelle est importante, et à ce titre-là, de faire en sorte que les organismes de formation et les formateurs puissent proposer des formations qui soient accessibles à tout le monde, y compris en faisant des adaptations pédagogiques, par exemple. Et puis, on essaie de développer des outils clés en main, tout un tas de solutions qui permettent finalement de démultiplier les réponses et que ça soit accessible à tous.
On va en parler de cet accès à l'emploi, évidemment, c'est au cœur de l'émission. Il y a cette idée forte dans le reportage qu'on a entendu ensemble, et c'est le champion de tennis fauteuil, Stéphane Houdet, qui dit que la compassion, ça ne suffit pas, que l'économie a un rôle à jouer. Pas de complexe, le handicap doit aussi être vu comme un marché, il faut adresser ce marché. Comment vous réagissez tous les deux? Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, Rachel Harak?
Oui, mais complètement, et je suis même ravie qu'on ait ce genre d'approche, que jusqu'à présent, je trouve qu'on avait une approche un peu parfois axée sur l'associatif, sur même parfois une approche un peu orientée patient. Et en fait, alors que la personne handicapée, c'est une consommateur, c'est un consommateur, pardon, comme les autres, qui a les mêmes besoins, qui ont besoin parfois d'être adaptés, mais ça marche, on peut faire du business. Je pense que la difficulté, c'est juste par contre d'être au plus proche des besoins des personnes en situation de handicap. Et ça, pour ce faire, en fait, il faut travailler avec eux, avec les personnes en situation de handicap, pour voir leurs vrais besoins, les intérêts aussi dans la conception. Et ça, c'est très important.
Et est-ce qu'il y a aussi quand même un sujet de pouvoir d'achat? C'est-à-dire, dès qu'on dit part de marché, sont des consommateurs, il faut aussi que les innovations, les personnes en situation de handicap puissent se les payer, j'imagine.
Oui, bien sûr. C'est vrai que on peut penser. Les personnes en situation de handicap peuvent peut-être avoir moins d'accès peut-être à l'emploi que les autres, du coup moins de finances que les autres. Mais après, c'est une situation qui est en train de changer. On a de plus en plus de personnes qui vont à l'école, qui travaillent et qui ont du coup les mêmes le même quotidien que les autres et du coup qui ont besoin des mêmes solutions que n'importe qui.
Didier Sartier, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée? Bon, les personnes en situation de handicap sont un marché.
C'est évidemment un marché. On peut parler de 1 milliard de personnes en situation de handicap dans le monde. Donc en plus, c'est un marché à l'international. On peut le voir de cette manière-là. Qu'est-ce que cherche à fabriquer la société? C'est finalement de répondre aux besoins des gens, et puis il y a des personnes qui ont des besoins particuliers, il faut pouvoir y répondre avec plusieurs types de réponses possibles. C'est toujours pareil, soit c'est de la réponse privée, monnayable, avec un prix, soit aussi il peut y avoir de l'appui public qui va permettre que ces prix-là sont pour certaines personnes réduits, et puis on peut le rendre carrément, si on pense que c'est du bien public, carrément accessible à tous, et on a les trois types de réponses, mais dans tous les cas, il faut aussi qu'il y ait une offre, il faut que cette offre se développe, et elle se développe, comme ça a été dit aussi, absolument, ce qui est absolument indispensable, c'est qu'elle se développe avec les personnes elles-mêmes, qui sont les plus à même de définir leurs besoins et de proposer des innovations, comme il y en a eu beaucoup dans le monde, tout le temps.
Alors justement, Rachel Harak, vous êtes une start-upeuse. On dit déjà que le numérique, c'est pas facile pour les femmes. Ouais. Pour une jeune femme en fauteuil, ça s'est passé comment? C'est quoi votre parcours?
Je sais pas comment répondre à ça. C'est vrai que moi, je suis un peu une fonceuse, donc je regarde pas. J'essaie de pas regarder de pas avoir de pensées limitantes, en tout cas. Oui, c'est sûr, c'est plus difficile. On travaille plus, mais après, il y a quand même des programmes d'accompagnement qui permettent quand même d'avancer dans le monde de la start-up. Il y a des
Vous
programmes.
Avez été à Station F, c'est ça?
J'étais à Station F. Je suis actuellement au Perco aussi, qui est l'incubateur de la région de France, dont la principale en fait thématique qui est le handicap, c'est-à-dire qu'elle favorise le développement des startups qui innovent en faveur du handicap.
Il y a tout cet écosystème de la Handitech
qui est en train de se développer, en fait, qui est en train de se faire de plus en plus. C'est-à-dire que moi, il y a 3 ans, quand j'ai commencé, il n'existait pas le Perco. Mais après, il y avait à l'époque un petit programme qui était développé par Paris & Co, qui était sur le handicap, mais c'était un petit programme. Après, du coup, il y a eu derrière la French Tech et derrière le Perco. Et là encore, on dit Lab qui arrive, que je veux rejoindre normalement après le Perco.
Ah, ça, je ne le savais pas. Donc, vous rejoignez voyez, le Handilab, le lieu sur lequel a été fait le reportage. Didier Sartier, le numérique, et certains m'ont dit peut-être même l'intelligence artificielle, est-ce que ce sont des leviers vers l'emploi quand on est en situation de handicap ?
Bien sûr, plusieurs sujets.
Ouais, il y a plusieurs sujets parce qu'il y a aussi
plusieurs
des
sujets.
Ouais, je suis d'accord.
Il y a évidemment le numérique et, qui fait partie des innovations du moment très fortes et on est maintenant dans une société totalement numérique qui peut apporter des solutions majeures pour un certain nombre de personnes et qui vont continuer à le faire. L'intelligence artificielle aussi.
Vous pensez à quoi ? Dites-nous quand même. Alors, par exemple.
Alors, des choses. Par exemple, aujourd'hui, se développent des avatars pour en langue des signes.
Ouais,
eh bien, c'est Ça permet aussi finalement de pouvoir démultiplier. Alors c'est aujourd'hui les solutions sont pas encore complètement en instantané. Ça fonctionne pas encore tout à fait. Mais par exemple voilà une solution. Vous avez aussi justement aussi les avatars en langue des signes. C'est justement pour les personnes qui utilisent la langue des signes et qu'elles puissent finalement avoir des réponses parce qu'elles sont pas nécessairement en capacité même de lire les textes et donc ça leur permet de savoir dans leur langue connaître ce qui est écrit. Ça peut être aussi justement des solutions qui seront d'ailleurs à Handilab si je ne me trompe pas, qui permettent de suivre une
fil object.
Non, ça je pensais à Ava.
okay.
qui permettent de suivre une discussion dans une réunion quand on est déficient auditif et donc du coup de savoir un tel a pris la parole et a dit ça parce que c'est pas toujours facile de suivre une conversation quand il y a plusieurs personnes qui parlent par exemple. Voilà des solutions, mais il y en a plein d'autres. Vous avez aussi une plateforme qui permet à des personnes qui sont avec des troubles 10 de trouver les solutions.
Les troubles 10,
dyslexie, voilà. Par exemple, qui vont permettre de trouver des solutions pour pouvoir finalement les permettre d'adapter les lectures et donc du coup de pouvoir finalement être en même situation que les autres.
Donc ça, c'est le côté positif.
Absolument. Comme pour tous les sujets, eh bien, la difficulté de notre mode de développement aujourd'hui, c'est que si on ne conçoit pas les produits à la base comme étant accessibles à tous et avec les problématiques. Il y a évidemment la déficience visuelle, mais pas que. Ça peut être aussi problématique de dire les choses de manière simple pour un certain nombre de déficiences ou au titre de la dyslexie, par exemple. Et donc, faire en sorte que les outils restent accessible à tous.
Ça, c'est un chantier.
Et ça, c'est un chantier qui est déjà bien engagé dans un certain nombre de cas. Et je ne parle bien évidemment pas là que du handicap moteur, de l'accessibilité physique. Hein. Je parle de toute forme d'accessibilité et notamment numérique, de faire en sorte que quand vous allez sur une application, quand vous allez sur un service numérique, la personne, d'abord, la comprenne ce qu'on veut dire et aussi n'ait pas de problématique. Je ne peux pas lire, je ne peux pas comprendre ce qui m'est proposé, et c'est malheureusement encore souvent le cas, même si aujourd'hui il y a des obligations de plus en plus fortes, notamment pour les acteurs publics dans ce domaine.
Je voudrais qu'on parle de l'emploi, on l'a entendu dans le reportage, les deux tiers des entreprises concernées n'ont pas 6% de salariés en situation de handicap, et pourtant c'est une obligation. Raja El Harrak, certains disent que devenir salarié donc en situation de handicap, c'est pas facile. Est-ce que monter son entreprise, ça vous a paru plus évident, ou est-ce que vous êtes aussi passé par le salariat ?
Oui, j'ai commencé par le salariat, mais c'est vrai que je me suis retrouvée un peu bridée dans le monde des salariés un petit peu, parce que soit je faisais face à des gens peut-être un peu trop bienveillants, qui voulaient peut-être pas m'embêter et me donner peut-être parfois des dossiers trop lourds, et du coup on perd un peu tout le côté challenge en fait du salariat, ce qui fait que ça nous permet pas d'aller jusqu'au bout de nos compétences, ou peut-être parfois c'est un peu inverse, peut-être on va moins nous faire confiance parce qu'on se dit peut-être qu'elle est peut-être pas en capacité du fait de son handicap, et c'est vrai que c'était un peu c'est ce qui m'a donné moi envie d'aller en tout cas entreprendre, parce que je me suis dit, en fait, j'ai envie de me dépasser, de voir de quoi je suis capable. Et c'est là où je me suis dit, en fait, le meilleur moyen de le faire, c'est de monter ma boîte et de voir ce que je peux en faire.
Didier Sartier, quand on entend que les entreprises sont pas, les deux tiers, il y a seulement un tiers qui a ces 6% de salariés en situation de handicap, c'est de la mauvaise volonté, ou alors c'est plus compliqué que ça ?
C'est surtout de la méconnaissance, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés, et encore, où on ne sait pas bien comment finalement en faire, hein. On l'a vu à plusieurs moments du reportage, entre la compensation, la compassion, la comp- passion, pardon, oui. Excusez-moi, une approche de solidarité, alors que l'objectif, c'est de considérer chaque personne pour ce qu'elle est, pour ses compétences, pour ses capacités, et puis finalement, de mettre l'environnement qui convient. C'est pas toujours facile de comprendre quel est le besoin d'une personne qui est un peu différente de nous. Et donc, c'est tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, de faire connaître les types de handicaps, et il y en a beaucoup, on l'a dit, hein. Il y a aussi des handicaps qui sont pas visibles, comme 80% d'entre eux sont pas visibles, donc il faut aussi se dire, bah, peut-être que la personne en face de moi, elle a des besoins particuliers, et donc je me mets tout de suite en position de dire, c'est quoi vos besoins, comment j'y réponds, est-ce que c'est un sujet de fatigabilité, de besoin d'adapter les horaires de travail, un besoin d'adapter un poste de travail, un environnement de travail, et donc de travailler à toutes ces questions-là. Elles sont assez nombreuses finalement, donc on peut comprendre que pour certaines entreprises, et notamment les plus petites, ça soit un peu complexe de prendre en compte toutes ces dimensions.
Il y a aussi les formulaires à remplir. Enfin, il y a ça, et puis il y a les formulaires.
Et puis il y a toujours un peu de côté
administratif. J'ai beaucoup entendu ça ces derniers temps. Raja El Arak, la mobilité, c'est un frein majeur à l'emploi?
Ben, oui, enfin, pour moi, la mobilité, c'est un des premiers facteurs d'inclusion sociale, en fait, ce qui va permettre d'aller dans les lieux de vie. Et l'emploi, enfin, c'est le travail, c'est le lieu de vie principal, c'est là où on passe le plus grand de notre temps. Donc, bien sûr, la mobilité, c'est un frein. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Ça veut dire qu'on a, par exemple, des entreprises qui prennent en charge, des grands groupes qui prennent en charge le déplacement. Il y a aussi la GFIP, en fait, qui a une compensation financière, pour justement pallier à ce problème. Donc bien sûr que c'est un frein, qu'il y a des solutions qui sont mises en place, mais bien malheureusement qui ne peuvent pas être prises par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même des limites. C'est-à-dire le budget de la GFIP, il est aussi limité. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, prendre un taxi tous les jours, bah, c'est quand même un coût. Et en fait, du coup, ça permet pas... Aujourd'hui, on est à 12 000 euros maximum par an, ce qui est énorme. Mais finalement, ça ne comprend pas le déplacement quotidien d'une personne en situation de handicap au travail.
Une dernière question peut-être, parce que j'ai appris ça juste avant l'émission aussi. Oui, est-ce que c'est vrai, c'est la fin de cette interview, c'est vrai que vous allez porter la flamme olympique?
Oui, j'ai cet honneur. Je suis vraiment ravie. C'est... la région, c'est Valérie Pécresse qui a mis cet honneur, en fait, de porter la flamme, et je suis vraiment très fière.
Vous savez quel jour?
Pas encore, mais je sais juste que c'est le 24 et le 26.
Très bien. Didier Sartier?
Nous aurons aussi un collaborateur de la GFIP qui va porter la flamme olympique.
C'est dit. Didier Sartier, le DG de la GFIP, et Raja El Arak, la fondatrice et patronne, CEO de Vibilia, l'application. Merci à vous deux d'avoir été les invités d'On n'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Et pour terminer en beauté, on n'arrête pas l'écho largement consacré au handicap. On vous retrouve, Sandrine Foulon. Vous faites le point sur la dernière réforme des retraites qui a suscité beaucoup d'inquiétudes. Alors, est-ce qu'avec le passage de 62 à 64 ans, les personnes en situation de handicap peuvent toujours partir de manière anticipée? C'est ma question. Et surtout, est-ce qu'elles peuvent partir comme avant?
Oui, Alexandra, le gouvernement avait promis qu'il ne toucherait pas à l'âge de départ en retraite des salariés en situation de handicap. Il a tenu parole. Ces assurés peuvent partir dès l'âge de 55 ans. Alors bien sûr, deux conditions sont nécessaires. Avoir un nombre minimum de trimestres cotisés et avoir été reconnu en tant que travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente, la fameuse IPP. Mais sur ces deux points, il y a du mieux. Je vous donne un seul exemple. Un taux minimal de 50% d'IPP et non plus de 80% est suffisant pour partir plus tôt. Autre nouveauté, et ce n'est pas négligeable, les aidants qui accompagnent un enfant ou un adulte handicapé peuvent bénéficier de trimestres supplémentaires. Dans certains cas, leur pension pourra même être calculée dès 65 ans à taux plein et pas à 67 ans, à l'âge où la décote ne s'applique plus. Évidemment, encore une fois, il faut cocher pas mal de cases. L'adulte handicapé doit avoir un taux d'IPP minimum de 80%. L'aidant doit s'être arrêté de travailler un certain temps. Mais quand on part à la recherche du moindre trimestre manquant, cette disposition peut être précieuse.
Là, Sandrine, vous évoquiez des exemples avec des personnes qui souffrent de handicap assez lourd, mais il n'y a pas que pour elles que la situation s'améliore.
Oui, ça concerne aussi les salariés qui ont connu un accident du travail ou une maladie professionnelle et qui se sont vus reconnaître un taux d'incapacité compris entre 10 et 19%. Eux pourront partir de deux ans avant l'âge légal, c'est-à-dire à 62 ans et non pas à 64. Et pour un taux d'IPP d'au moins 20%, ce sera possible dès 60 ans. Et puis, il existe également un nouveau dispositif de retraite anticipée pour inaptitude au travail qui devrait concerner près de 100 000 personnes. Eux pourront bénéficier d'une retraite à taux plein dès 62 ans. Ça veut dire qu'ils ne subiront pas de décote, mais que leur pension sera tout de même calculée au prorata du nombre de trimestres validés. Ce qui, au bout du bout, ne fait pas forcément de grosses retraites. Ça, Alexandra, c'est un gros point noir. Dans la grande majorité des cas, l'employeur ne propose pas de plan B aux salariés inaptes. Il finit par être licencié. Et cela a été dit ce matin, retrouver un emploi avec un handicap, c'est loin d'être simple.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.
On n'arrête pas l'écho avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
Un monde presque parfait, le nouveau best-seller de Laurent Gounel. Parce que choisir sa vie, c'est choisir son monde, David Lissner se risque à une mission de haute sécurité pour sauver sa société hyper connectée. Mais pourquoi David fait-il exactement ce qu'on attend de lui ? Sur son chemin, Ève, une jeune femme libre, n'entend pas se laisser dicter sa vie. Un monde presque parfait, de Laurent Gounel. Un roman initiatique qui donne envie de retrouver son pouvoir de décision et sa liberté. Aux éditions Mazarine.
Shalina Hassanali, docteur en biologie cellulaire pour le laboratoire Caudalie, nous parle de sa solution pour un bronzage sans taches.
Le soleil peut entraîner l'apparition de taches qui, contrairement au bronzage, ne partent pas. Je recommande le sérum Vino Perfect, numéro 1 des soins anti-taches en pharmacie en France, qui prévient et corrige tout type de taches.
On l'applique avant sa crème solaire ?
Oui, et d'ailleurs, les soins solaires Caudalie assurent une très haute protection pour toute la famille des 3 ans.
En ce moment, pour l'achat d'un sérum Vino Perfect Caudalie, la crème solaire